Bonjour, nous sommes le mercredi 28 septembre 2022. Vous assistez à l'enregistrement, vous écoutez l'enregistrement du deuxième épisode de la troisième saison du podcast des éditions aux Forges de Vulcain. Je suis David Malmans, éditeur aux éditions aux Forges de Vulcain, et je reçois aujourd'hui Alexandra Kochelik.
Bonjour, bonjour David.
Ça va
Bonjour à
Alexandra?
tous et à toutes. Oui.
Et est-ce que tu sais pourquoi on te reçoit aujourd'hui?
J'ai une petite idée quand même.
D'accord. Alors dis-nous, c'est quoi ton hypothèse? Tu peux te tromper?
Ah
Attention.
oui, j'ai droit à combien de
Non.
combien de réponses?
Non.
Donc mon troisième roman adulte sort le 7 octobre et s'intitule L'archiviste. Donc je pense que tu as des questions à me poser.
C'est cela. Alors, petite histoire, les éditions Forges du Vulcain, on prépare souvent les textes très très longtemps à l'avance. Enfin, on essaye, parce que c'est plus facile pour une maison de la taille des Forges, et puis les Forges font partie de ce mouvement au sein de l'édition indépendante qui essaye d'éditer moins pour éditer mieux. Donc on essaye de s'y prendre un peu plus à l'avance. Et puis là, ce texte, il a été ajouté au programme. Alors je rassure nos éditeurs et nos éditrices, nous sommes restés dans la règle de ne faire que des titres par an. Donc il y a un titre qui était prévu pour 2022 qui est passé en 2023. Et ce roman s'est imposé. Alors il s'est imposé parce que c'est lui-même le texte imposé à toi. Donc comment ce texte s'est imposé à toi, Alexandra?
Oui, alors effectivement, c'était pas un texte qui était prévu, tout simplement parce que j'avais déjà, on avait déjà travaillé sur une autre idée et j'écrivais d'ailleurs, enfin je faisais des recherches et j'écrivais aussi un nouveau texte pour les Forges, jusqu'à ce que alors j'étais à ce moment-là à Porto, en week-end à Porto et j'ai allumé mon téléphone et j'ai vu que l'Ukraine venait d'être envahie. Donc c'était le 24 février et ma première réaction, ça a été j'étais sidérée en fait, une sidération et à la fois en fait à la fois une sidération et en même temps cette idée que ça allait arriver un jour. Donc j'étais un petit peu perdue entre deux émotions qui étaient contraires. Et donc quand je suis rentrée chez moi, je n'ai plus réussi à écrire le roman que j'étais en train d'écrire. Ça me semblait complètement futile. Donc je suis passée par plusieurs étapes, c'est-à-dire que j'ai voulu à un moment donné partir pour aider, donc partir à la frontière. Mais nous n'avons pas, à l'éducation nationale, car je suis professeure, nous n'avons pas de congé sans solde, nous ne pouvons pas poser de congé sans solde, donc je ne pouvais pas non plus partir du jour au lendemain. Et puis, petit à petit, quand je regardais en fait les informations, je trouvais que les journalistes étaient étonnés par ce peuple ukrainien qui résistait. Et en fait, pour moi, je n'étais pas étonnée de cette résistance, tout simplement parce que depuis toute petite, on me dit que l'Ukraine sera à un moment donné de nouveau envahie, que ça fait partie de l'histoire, de son histoire en quelque sorte. Mais malgré tout, en grandissant, je me suis dit qu'on était quand même au 20e puis au 21e siècle, donc on était arrivé à un moment en fait de l'histoire où on ne pouvait pas de nouveau avoir ses frontières chamboulées en quelque sorte. Et donc face à ces journalistes finalement qui trouvaient que c'était étonnant qu'un peuple, on va dire, qui est aussi mal connu en quelque sorte, résiste face à la Russie. Et j'ai eu envie finalement de transcrire cette. Pour moi, ce n'est pas une surprise, donc de transcrire ceci, de transcrire. Alors au départ, c'est passé par des voix ukrainiennes. J'ai eu envie justement de me replonger dans Taras Shevchenko. pour ne citer que lui pour l'instant, mais de parce que Taras Shevchenko, c'est un poète qui est étudié depuis des générations. Et lorsqu'on lit ses poèmes disent effectivement, là, l'Ukraine est malmenée, l'Ukraine est envahie, mais il faut se battre parce qu'à un moment donné, la liberté sera là, au bout du chemin. Et donc, si ce n'est pas pour notre génération, ce sera pour la génération d'après. Et là, de nouveau, finalement, il y avait ça. Les Ukrainiens qui disaient, de toute façon, on ne peut faire que ça, c'est-à-dire se battre et résister. Et il n'y a même pas de... En quelque sorte, cette question chez les Ukrainiens est, pour moi, naturelle, c'est-à-dire on prend les armes. C'est ce qu'on a toujours vu en fait à travers les poèmes de Taras Shevchenko. Et donc au départ l'idée de ce livre était celle-ci, de parler de cette culture ukrainienne qui selon moi porte en elle cette plaie qui fait que quand quelque chose arrive, de nouveau, on est soudé et on y va et on se défend, on résiste en quelque sorte. Donc au départ, c'était des voix ukrainiennes. Et puis, petit à petit, j'ai eu envie effectivement de créer autour de ces voix, ce que j'appelle les voix ukrainiennes, de créer un récit cadre qui est l'histoire de K. C'est à ce moment-là, donc je pense que c'est à peu près une semaine ou 15 jours après, je t'ai appelé pour t'en parler et pour te dire que j'avais arrêté d'écrire l'autre roman, l'autre texte. Et donc, on a commencé à en parler. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de... Il y avait une écoute, enfin, ton écoute qui était là, qui était très belle. Et tu m'as dit, eh ben, vas-y, fonce. Et je pense que là, en fait, d'être entendue, enfin plutôt écoutée, ça m'a permis de me dire, ok, j'y vais. Finalement, mes armes vont être l'écriture.
Mais alors, en fait, moi, je n'ai pas de lien du tout avec l'Ukraine. J'ai un de mes ancêtres qui a traversé à pied l'Ukraine, c'est tout. Mais il n'en a rien raconté de particulier. Il a perdu deux orteils, voilà, c'est tout, qui sont toujours en Ukraine, voilà. Mais en dehors de ça, je n'ai pas de lien particulier. Par contre, c'est vrai que ton premier roman, A crier dans les ruines, qui est sorti il y a plus de 3 ans maintenant, c'était un roman qui était déjà ukrainien, en fait, le sujet, c'était certes Tchernobyl, l'événement initial du roman de A crier dans les ruines, c'est Tchernobyl, mais le grand thème, c'est l'Ukraine, en fait. Et donc, d'une certaine façon, là où moi, c'était facile de te suivre dans cette aventure, c'est qu'en fait, c'était à la fois une surprise qu'un nouveau texte naisse si rapidement, et en même temps, c'était complètement logique, parce que ton écriture, c'est une sorte de grand fleuve ukrainien, quoi. Oui, moi, je suis pas écrivain, donc les métaphores, c'est pas trop ma chose, mais voilà. Mais par contre, il y a aussi un autre élément de ton écriture qui t'es passé dessus très rapidement, c'est que tes romans parlent certes de la culture ukrainienne, mais le mode de résistance de tes personnages, c'est souvent la culture. Ce qui n'est pas anodin, parce qu'on aurait pu imaginer, est-ce qu'on doit écrire un roman héroïque ou un roman historique sur l'Ukraine ? Et non, tu prends un biais très particulier, comme dans tes deux précédents romans, sur la culture comme le fait humain majeur, en fait. Et c'est particulier, non, comme approche ?
Alors, je ne sais pas si c'est particulier. On va dire que je n'ai pas forcément réfléchi à tout ça. Mais c'est ce qui me vient en premier, tout simplement parce que, alors, un peu à l'image de Léna dans A crier dans les ruines, mais je me suis constituée à travers, c'est bête à dire, mais c'est la culture qui a permis de me, comme un tuteur en fait, c'est-à-dire c'est elle qui me soutient en quelque sorte. Donc, je pense que je reviens à cette culture quand quelque chose d'affreux en quelque sorte arrive. C'est elle qui, alors la culture au sens large, c'est-à-dire ça va être la lecture, la littérature, mais aussi tout ce qu'il y a autour, enfin les musées, les tableaux, les sculptures, c'est... Pour moi, en fait, c'est quelque chose qui est... c'est bête à dire, mais un pays sans culture n'a pas forcément une force, en fait, finalement, pour réagir et pour... le peuple ne peut pas s'unir derrière quelque chose. Et donc voilà, enfin, c'est un terreau commun, tout simplement. Voilà.
Non, mais ça... En fait, je dis souvent qu'on écrit bien à partir de ce qu'on a en propre. Et il y a au moins deux choses remarquables que tu as en propre. C'est le monde ukrainien et la centralité dans ton existence du phénomène culturel. Mais en fait, ce qui m'a intrigué quand ton projet est arrivé, c'est que il y a ce que tu as en propre et ce que tu es en propre qui est très particulier, au sens où, face à un événement aussi terrible que la guerre en Ukraine, je crois que beaucoup de gens ont eu le désir d'écrire ou de publier, parce que par exemple un éditeur peut avoir un désir de publier alors qu'il n'a pas de désir d'écrire, ou du moins il n'écrit pas. Mais souvent, les deux positions dominantes, c'est les Français qui écrivent sur l'Ukraine, les Ukrainiens qui écrivent sur l'Ukraine. Et ce que je trouve très intriguant dans ton cas, c'est que tu n'es aucun de ces deux positions, tu n'es aucune de ces deux positions. C'est-à-dire que, je dirais presque extérieurement, c'est que tu es ukrainienne sans lettres et tu es française sans lettres aussi. Est-ce que tu... Je sens qu'on a dû prévoir une quinzaine de séances de 2 heures, tu vois, là ça tourne à la psychanalyse. Mais est-ce que tu pourrais dire... Pour moi, en fait, je suis une personne issue de la diaspora ukrainienne. Qu'est-ce que ça apporte, d'après toi, ta position propre par rapport à la position... d'une Ukrainienne ou d'une Française qui écrirait sur l'Ukraine. Tu es à la fois les deux et aucune des deux.
Oui. Alors...
Ce que je me dis, ce roman, l'archiviste, ouais. Seul toi pouvais l'écrire.
Ouais.
C'est là où on se dit qu'il y a quelque chose de beau et d'original dans un roman, c'est quand on se dit, ce texte ne pouvait pas être écrit par une autre personne.
Mais alors, en fait, ta question m'interpelle parce que... Alors, je vais revenir puisqu'on est dans la psychanalyse. mais ma grand-mère m'a toujours dit, alors quand j'avais 6, 7, 8 ans, m'a toujours dit qu'elle ne savait pas qui elle était. C'est-à-dire qu'en France, on disait qu'elle était l'Ukrainienne et quand elle retournait en Ukraine, on lui disait « tu es la Française ». Et je pense que c'est une phrase qui m'a énormément marquée, tout simplement parce que ma grand-mère était un pilier de ma famille. Et qu'elle ne sache pas qui elle était, c'est assez perturbant pour une enfant. Et malgré tout, par la suite, j'ai compris à quel point c'était une richesse. Au départ, quand j'étais vraiment très petite, je disais à tous ceux que je rencontrais, « je suis ukrainienne ». Et j'ai longtemps, en fait, je me suis positionnée effectivement comme une Ukrainienne, mais qui vivait en France en quelque sorte. Parce que, bon, après, c'était assez simple parce que mes 4 grands-parents sont ukrainiens, donc c'est assez facile effectivement de dire, de revendiquer le fait d'être ukrainienne. Et puis, en fait. Je pense qu'avec « À crier dans les ruines » et le fait de tourner aussi dans pas mal de lycées et d'avoir en face de moi des élèves qui, ou des adolescents plutôt, qui étaient issus de deux cultures, finalement, eux aussi me disaient « on n'arrive pas à se situer dans cette double culture, on ne sait pas finalement comment être ou comment agir, par exemple en France. Et en fait, là, c'est à ce moment-là que je leur ai dit, au contraire, c'est une évidence, mais elle n'apparaît pas forcément. Au contraire, n'opposez pas ces deux cultures, mais voyez ces deux cultures comme une richesse, c'est-à-dire, vous n'êtes pas plus ukrainien que français, mais vous êtes les deux à la fois. Et peut-être que, grâce à Crier dans les ruines et à ces rencontres que j'ai faites avec ces lycéens, je me positionne maintenant comme cette richesse qui est en moi, en quelque sorte.
Et tout en t'écoutant, je repensais à quelque chose, c'est que finalement, même si ce n'est pas volontaire, dans le catalogue des forces, il y a beaucoup d'auteurs qui parlent d'identité, et que c'est vrai que c'est, je pense, un sujet de notre début de siècle, après un 20e siècle qui était siècle des idéologies. On a l'impression que ce début de 21e siècle, c'est le siècle des identités. Et un auteur comme Charles Yu, un Américain qui écrit sur la condition asiatique-américaine aux États-Unis, il décompose l'identité personnelle en trois strates. Il dit que lui, il se perçoit d'abord comme Américain. Tout en bas, il y a une autre strate qui lui vient de ses parents qui sont d'origine taïwanaise. Et entre les deux, il y a cette identité asiatique-américaine qu'il est forcé d'adopter, mais qui est contrainte d'une certaine façon parce que le seul point commun qu'il peut avoir avec des Américains d'origine coréenne, de Chine continentale, de Taïwan, ou même d'autres parties de l'Asie, c'est en fait le regard de l'homme blanc sur eux qui constitue cette identité par défaut. Et je me rendais compte de quelque chose aussi, c'est que si je devais appliquer ce forme de découpage à Alexandra Kochelik, je disais que je vois bien ce souffle initial qui vient de l'Ukraine, je vois bien ton identité actuelle, qui est ta position sociale actuelle, c'est-à-dire que tu es française, tu enseignes le français, et voilà. Et quelle place prendrait l'identité intermédiaire? Et en fait, l'identité intermédiaire, qui est cette identité par le regard des autres, en fait, ce qui est très particulier, alors d'une part, tu n'as pas une identité visible, même si les gens ne le voient pas, mais tu as le cheveu clair et tu es très grande, donc ça, c'est peut-être quelque chose, mais la manière dont ferait sens la deuxième identité, qui est l'identité imposée par les autres, c'est qu'en fait, on a beaucoup d'idées sur le monde de l'Est, mais en fait, sur l'Ukraine, on est très ignorant. C'est-à-dire, jusqu'à une période récente, je pense que la plupart des Français avaient du mal à placer l'Ukraine sur une carte. Et on a une méconnaissance de du monde ukrainien qu'on a découvert avec d'abord la Révolution Orange, puis Maïdan. Je parle des gens de ma génération qui viennent de milieux qui n'ont pas de lien particulièrement avec l'Ukraine. Et donc, d'une certaine façon, parce que ton texte, c'est le récit d'une héroïne, mais c'est aussi une sorte d'arche de Noé pour la culture ukrainienne, avec le fait que, contrairement à d'autres cultures européennes sur lesquelles les Français ont des idées assez précises, que ce soit la Roumanie, avec laquelle il y a une tradition d'écrivains roumains francophones, la Pologne, les grands écrivains polonais qui ont pu être publiés en France au début du XXe siècle, la Russie, où on a un imaginaire franco-français de c'est quoi la Russie. Et en fait, l'Ukraine, finalement, c'est assez imprécis, en fait. Je pense que ce serait intéressant de demander à des Français dans la rue qui fassent la liste de ce qui est ukrainien d'après eux. Ça serait assez surprenant. Mais c'est aussi quelque chose que moi j'ai trouvé assez remarquable dans ton texte, c'est ce côté, cette arche de Noé de la culture ukrainienne. Qu'est-ce qu'il faut sauver de la culture ukrainienne? Et donc merci pour ce texte. Il n'y avait pas de question là. Non, est-ce que tu veux juste nous résumer un tout petit peu le propos du roman?
Oui. Alors,
c'est l'histoire d'une femme qui va sauver la culture ukrainienne.
C'est ça, exactement. C'est, oui. Alors, tu veux que je...
C'est ça. Ah non, vas-y, dis donc, oui. Je dis ça parce que les résumés qui sont faits par les éditeurs sont toujours beaucoup plus brutaux que les résumés faits par les auteurs et les autrices.
Oui, oui, oui. Bah, alors, donc c'est l'histoire de K, qui est archiviste, effectivement, en Ukraine, et qui est chargée de garder le Donc elle a cette bibliothèque, elle est chargée de garder les archives, mais aussi de protéger les œuvres qui ont été descendues en fait, des murs des musées. Et comme sa bibliothèque possède de vastes sous-sols, elle a aussi à l'intérieur des statues, des tableaux, des poèmes. Voilà. Elle a tout le trésor ukrainien, en quelque sorte. Et puis, un soir, une personne arrive, donc, que j'ai appelée l'homme au chapeau. Il n'a pas de prénom, donc c'est l'homme au chapeau, et il lui demande quelque chose d'assez intrigant, puisqu'il ne veut pas, il ne veut pas détruire la culture ukrainienne, mais il veut la modifier, tout simplement parce que il s'est rendu compte que ça ne servait à rien de détruire une culture, dans le sens où, quand on détruit une culture, cette culture, elle... Il y a un souvenir, en fait, il y a une sorte de cristallisation dans l'esprit des gens. Et donc, ça ne sert à rien de la détruire puisqu'elle resterait. Mais au contraire, si on la modifie et si on replace les tableaux, si on replace, enfin, si on lit les poèmes modifiés, au fur et à mesure des générations, la culture ukrainienne disparaîtra. Donc, au profit, justement, de ce qu'il souhaite changer. Et donc, au départ... L'archiviste donc ne souhaite pas le faire, sauf que il a des moyens justement pour qu'elle le fasse. Sauf que là, à ce moment-là, pour moi, en fait, dans une bibliothèque, il y a toujours des fantômes. Et donc là, il y a des fantômes dans sa bibliothèque. Et ces fantômes ou ces ombres vont permettre à K certaines choses autour de la culture ukrainienne et ça va lui permettre justement d'avoir une certaine forme de salut, en quelque sorte.
En fait, ton résumé est très bien parce que il y a une petite dose de magie dans ton texte, même si ça s'inscrit dans la littérature, dans ce qu'elle a de plus classique. Et c'est vrai que c'est important de le mentionner aussi sur le fait que c'est aussi par écho. Ça montre le caractère complètement magique de la culture, de la lecture. On prononce un mot et on revit un moment, on lit un livre et on se retrouve transporté dans une contrée lointaine. Donc c'est un très bon résumé, j'approuve. et en passant, c'est aussi en fait, quand tu t'es lancé dans l'écriture, tu avais une idée une grande aspiration de comment on se bat pour quelque chose, pour sauver quelque chose. Et il y a plein de choses qui sont apparues, qui étaient très concrètes, très actuelles dans ton texte, et notamment la notion du rapport à la vérité, qui est aussi un des grands thèmes de notre siècle, sur le fait qu'on ne peut plus faire de la propagande comme au XXe siècle, mais on fait quelque chose qui est... la post-vérité, les fake news, le fait de détruire le concept de vérité. C'est-à-dire on ne ment pas, on détruit le concept de vérité, ce qui fait qu'on ne peut plus casser les mensonges parce qu'on n'arrive plus, les gens ne peuvent plus croire même la vérité.
Oui, tout à fait.
Ça, c'était impressionnant de voir ça apparaître dans ton texte. Oui. C'est un très beau texte, il sort dans quelques semaines. Ce que j'ai trouvé aussi... c'était une coïncidence, mais le jour où on est parti en impression, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a eu un article un peu glaçant dans la presse. C'était le jour où, je crois que c'est une organisation internationale qui a découvert que presque tous les musées qui étaient dans les zones qui avaient été conquises par la Russie ont été vidés. Et que, en fait, ce que tu décrivais dans ton roman, c'était vraiment passé, c'est-à-dire des directeurs d'institutions culturelles avaient, pour les protéger, regroupé des œuvres dans certaines villes ou au sein d'une ville, dans certains bâtiments.
Et dans des sous-sols.
Et que c'est presque arrivé à une contre-finalité. C'est que c'était plus facile de toutes les trouver, puisque en fait leur rassemblement a été fait et ces œuvres sont parties vers la Russie. On ne sait pas du tout où elles sont. Cela dit, je me disais en le relisant, que ça a une dimension à la fois universelle et intemporelle, dans la mesure où si on pense à des guerres passées, que ce soit la guerre d'Irak ou des guerres plus anciennes, parmi les différentes, au-delà des victimes, comment dire, des morts et des blessés qui sont en fait les vraies victimes, il y a aussi la culture qui est une victime assez rapidement, puisque souvent les musées sont soit pillés, que ce soit pillés par des pillards qui après revendent, que ce soit pillés par l'État qui envahit, qui veut dire que comment dire, l'envahisseur comprend le rôle de la culture. Peut-être la difficulté qu'on a, c'est que dans les sociétés démocratiques, on oublie parfois le rôle de la culture. Mais et en fait, je te laisse pas parler. Pardon, je suis désolé. Mais non, parce que je suis encore sous l'émerveillement de, comme je disais au début de ce podcast, c'est un roman qui est arrivé assez vite dans nos vies, qui s'est imposé. Qui t'a demandé une abnégation assez fantastique pour l'écrire, une certaine intensité. Et maintenant, il est là, avec une couverture d'Héléna Veillard. J'espère qu'il plaira, j'espère qu'il fera lire. Les bons romans, c'est souvent des romans qui font lire. Et j'espère qu'il fera lire beaucoup de choses, qui donnera envie de connaître davantage la culture ukrainienne. Et aussi, alors je dis juste comme ça, c'est que par rapport à tes deux autres romans, je me suis rendu compte que c'est un roman. Alors, ça va être une question à la fin, parce que je voudrais savoir si tu acceptes cette description. Je le trouve à la fois plus sombre et plus lumineux que tes précédents romans. Il est plus sombre parce que c'est vraiment une situation horrible de chez horrible, avec des moments assez durs dans ton texte, voire extrêmement durs. Et puis, il y a cette foi. Il y a presque une religion de la culture, c'est-à-dire une religion au sens où c'est une foi qui a une dimension à la fois rituelle et sacrificielle, c'est-à-dire il faut toujours y retourner par un acte de la volonté, et puis il y a quelque chose où on peut vraiment tout. On comprend en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ça sera pas pour notre génération, mais ça sera pour que au moins la génération d'après puisse faire ça. Donc pour finir, est-ce que tu acceptes cette qualification sur le fait que ça sera ton, pour l'instant, c'est ton roman le plus sombre et le plus lumineux? Est-ce que tu es d'accord?
Oui, ça me va, tout à
Ça
fait.
te va?
Oui. Mais alors, c'est vrai que en l'écrivant, je n'ai pas vu ce côté sombre. Je voyais très bien, effectivement, qu'il y avait un côté qui était le personnage de l'homme au chapeau. C'est un personnage qui, moi-même, me révulsait. J'avais. Enfin, c'était assez étrange d'écrire en fait ce personnage autour de ce personnage-là et ce personnage-là. Et en même temps, ce que je voyais chaque jour dépassait ce côté sombre. C'est-à-dire que les informations tombaient et je les trouvais tellement terrifiantes qu'il fallait effectivement que cette écriture marque aussi ce que je ressentais chaque jour. Voilà. Donc, mais en même temps, là aussi, je voyais des petites choses aux informations ou même sur les réseaux qui me montraient un côté solaire malgré tout. Et donc, voilà, peut-être que c'est à l'image oui, c'est pas peut-être, mais c'est à l'image de ce que je vivais chaque jour. Parce que c'est un roman qui m'a tenue effectivement jour et nuit. Je me souviens très bien, en fait, en partant travailler, j'étais dans le RER avec mon carnet de notes. Enfin, c'était vraiment un élan. Et qui était nourri justement par les articles dans la presse, par les réseaux sociaux, par l'histoire aussi, puisque j'ai fait aussi des recherches dans les archives. Enfin, et donc voilà, enfin, ça donne un roman qui porte ces derniers mois. Voilà.
Eh bien, Alexandra, je te remercie beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre enregistrement. C'était donc le deuxième épisode de la troisième saison du podcast des éditions Aux Forges de Vulcain avec Madame Alexandra Kochelik à la faveur de la publication de son troisième roman adulte, L'Archiviste, aux éditions Aux Forges de Vulcain. Et nous étions le 28 septembre 2022. Merci beaucoup.